8 MHz. Notre dossier, les effets du travail sur la grossesse. Le week-end prochain, à Genève, les citoyennes et les citoyens iront aux urnes pour décider si oui ou non on accepte la révision sur l'assurance maternité et maladie. Un enjeu important pour les femmes. Pour en comprendre un peu plus les tenants et les aboutissants, ce soir nous allons parler de l'effet du travail sur la conception, sur la durée et l'aboutissement de la grossesse. Pour en parler avec nous ce soir, la doctoresse Elisabeth Cohn-Perea.
Dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade de me banhar nos rios, tomar tacacá, beber açaí lá em Guarapari.
Pour la maternité liée au travail commence en effet bien avant la grossesse, puisque l'environnement de travail peut influencer déjà la fonction reproductrice de la femme et de l'homme d'ailleurs. C'est à ce niveau seulement que l'homme et la femme sont d'ailleurs égales dans le travail. Plus tard, c'est à la femme seule que revient la responsabilité de porter son enfant dans un environnement qui lui soit favorable, puisque l'environnement de travail peut influencer de façon désastreuse l'issue de la grossesse, avec des malformations, des avortements précoces, des naissances prématurées et des retards de développement intra-utérin. Avant de parler des risques pour la maternité liés au travail, il faut expliquer brièvement les modifications physiologiques, c'est-à-dire les modifications du corps qui se produisent toujours au cours de la grossesse et qui influencent assez fortement le risque pour le fœtus. Il y a bien sûr des modifications du poids de la femme avec des troubles de la statique qui peuvent entraîner des chutes et des accidents. On constate également qu'il y a toujours des modifications de la respiration ainsi que de la consommation d'oxygène et les toxiques ont ainsi accès plus facilement et plus rapidement au fœtus où ils peuvent avoir des effets plus néfastes que pour la mère. En effet, les risques liés au travail ne commencent donc pas le jour de la conception et de nombreuses substances sont responsables d'une diminution de la fertilité masculine, féminine. Ainsi, on sait que des métaux comme par exemple le plomb, qui est extrêmement fréquent dans les milieux de travail comme dans l'environnement en général, peuvent diminuer la spermatogenèse chez l'homme, donc la formation de spermatozoïdes, et conduire à des troubles de l'ovulation chez la femme. On connaît également, bien sûr, l'influence des radiations ionisantes, comme les rayons X ou d'autres, qui provoquent des altérations chromosomiques dans les cellules de la reproduction. Et ces modifications chromosomiques peuvent engendrer des altérations tellement importantes qu'elles empêchent la production d'un fœtus viable et éventuellement sinon des anomalies graves du matériel génétique, comme cela a été constaté chez des enfants qui sont nés par exemple, ceci bien sûr dans des proportions catastrophiques, chez des enfants qui sont nés après les explosions d'Hiroshima et de Nagasaki. Un autre élément qu'on retrouve très souvent dans l'environnement de travail ou général sont les pesticides qu'on emploie à outrance, depuis des dizaines d'années et qui peuvent, de certaines familles de ces pesticides, détruisent les cellules germinales et conduisent à une stérilité de la femme cette fois. Enfin, un autre exemple qu'on a pu bien étudier est celui des enfants nés ces dernières années au Vietnam où on a observé de très nombreuses malformations, parfois monstrueuses, et celles-ci ont été attribuées aux composants des défoliants qui ont été utilisés par l'armée américaine.
Donc cela, ce sont les événements avant la grossesse, et donc tout l'environnement du travail qui va empêcher en fait la femme ou l'homme d'avoir un enfant. Ils sont stériles. Ou alors l'enfant naît mal formé parce que les cellules germinales ont été elles-mêmes touchées. Donc elles sont touchées profondément, c'est-à-dire que tous les enfants risquent d'être mal formés.
Oui, tout à fait. On estime qu'il y a 30% de stérilité dans les pays occidentaux. Bien sûr qu'il y a des causes gynécologiques, il y a des causes médicales, et on ne connaît pas exactement la proportion des causes liées à l'environnement ou au travail.
Et puis, deuxième moment important, la conception a eu lieu. Quels sont maintenant les risques dus à l'environnement de travail pour le tout début de la grossesse?
Alors, en fait, on parle là des événements qui peuvent survenir pendant le premier trimestre de la grossesse, c'est-à-dire des avortements précoces et des malformations. Il faut dire que là, les renseignements absolument nous manquent, parce que bien souvent, les avortements précoces se produisent après quelques jours, seulement un très bref retard de règles. Elles ne sont pas perçues en fait comme des avortements précoces par la femme elle-même. Donc, disons, les rapports qui ont été faits, les évaluations sur la toxicité de certains produits sont extrêmement difficiles à obtenir de façon rigoureuse, puisqu'on rate une grande partie des avortements précoces, qui sont probablement ou peut-être en tout cas lié à l'environnement. Le deuxième événement qui survient à ce moment sont les malformations des fœtus, puisqu'on sait que le fœtus est parfaitement et complètement formé à la fin du premier trimestre. Donc tout événement toxique qui survient pendant cette période peut conduire à des malformations. L'exemple le plus dramatique qu'on a pu observer dans ces dernières années, enfin il y a déjà heureusement quelque temps, c'est l'exemple de la thalidomide, qui là est un médicament, mais disons, on peut imaginer qu'il y ait d'autres produits, des produits toxiques liés au travail, qui produisent ce même genre de produit, ce même genre de malformation. Alors en fait, on a particulièrement étudié le problème de l'exposition aux gaz anesthésiants dans le milieu hospitalier, gaz anesthésiants auxquels étaient exposées les infirmières de salle d'opération ou les femmes anesthésistes ou les femmes qui opéraient un peu moins, et il y en avait surtout beaucoup moins. Et on avait pu démontrer que ces femmes avaient un excès d'avortements précoces et de malformations. Et même, on a dit qu'on retrouvait ces problèmes chez les femmes dont les conjoints étaient exposés. On n'a pas su si c'était exactement à quoi c'était dû. Heureusement, on a pu montrer que ces dernières années, on n'a plus ces malformations ni ces excès d'avortement en salle d'opération, parce qu'on a pu procéder à de sérieuses améliorations techniques. En plus, on a abandonné un certain nombre de gaz anesthésiants qui étaient particulièrement toxiques. Donc on a pu montrer que si on s'attache vraiment à améliorer l'environnement de travail, on peut supprimer un certain nombre d'effets vraiment dramatiques pour la grossesse des personnes qui travaillent dans ces environnements. Et puis toujours dans le milieu hospitalier qu'on connaît bien, et surtout c'est un milieu qui est peut-être plus facile à étudier, on s'est préoccupé des médicaments, de la préparation des médicaments anticancéreux par les infirmières. Ces médicaments sont extrêmement utilisés dans certains services. Il y a beaucoup de services de cancérologie dans les différents hôpitaux. Et là aussi, on s'est étonné du fait qu'il y avait un excès d'avortements et de malformations chez ces infirmières. Et là aussi, ces observations ont conduit à des recommandations d'utilisation extrêmement strictes pour les femmes. Malheureusement, dans l'industrie, les expériences n'ont pas toujours été aussi claires et les améliorations apportées aussi efficaces. On s'est beaucoup préoccupé ces dernières années également de l'influence de l'utilisation des écrans de visualisation sur la grossesse. Il y a eu en particulier aux États-Unis plusieurs séries comme des épidémies, si on veut, d'avortements et de malformations dans certains bureaux, dans certaines grandes entreprises, particulièrement le bureau de la défense en Amérique. Et on a évoqué la responsabilité de ces écrans dans la survenue de ces incidents de grossesse ou de ces accidents de grossesse. On a pensé que c'était dû aux ondes électromagnétiques, il y a des rayons X dans les écrans, il y a une température qui est légèrement élevée, il y a également des champs électromagnétiques. Mais toutes les expériences, certaines ont été poussées extrêmement loin, puisqu'au Canada, il y a plus de 56 000 femmes travaillant sur écran, enfin plus exactement 56 000 grossesses de femmes travaillant sur écran ont été suivies, et qu'on n'a absolument pas pu démontrer qu'il y a un effet de ces écrans. Les doses, toutes les expériences autour des écrans, les mesures de rayonnement ont montré que ce n'était pas possible de lui attribuer ces effets sur la grossesse. Mais ce qu'on ne peut pas exclure, bien sûr, c'est que le fait de travailler sur écran, on sait que beaucoup de femmes effectuent un travail monotone, rapide, stressant, et que ce stress mental lié à ce type de travail n'induise, soit par lui-même, soit à travers la prise de médicaments, des effets négatifs sur le fœtus ou sur le déroulement de la grossesse. Ce qu'on peut dire par contre, c'est pas le travail en soi qui est responsable. Certains avaient d'abord dit que c'était les femmes devraient rester chez elles, que leur rôle c'était d'être à la maison et que c'est là seulement que la grossesse pouvait se dérouler comme il faut et normalement et sans incident. Mais on peut dire et on peut affirmer maintenant que ce n'est pas le travail qui provoque ces accidents de grossesse, mais que ce sont les conditions, l'exposition à des produits, le fait de travailler de façon plus... de faire trop d'efforts physiques, d'être exposé à un environnement de travail qui provoque ces accidents dramatiques.
Bien, alors nous arrivons tout doucement au cours des mois à la fin de la grossesse et les effets du travail sur cette fin de grossesse. Et tu as bien précisé, je pense que c'est important de le repréciser, qu'on ne parle pas du travail en général, mais de certains travaux, de certains types de travaux, de certains lieux de travail qui peuvent être plus à risque que d'autres. Ce n'est pas le travail en lui-même. Alors... Donc, sur la venue de la grossesse, c'est la prématurité. Et à Genève, je crois qu'il y a beaucoup, un chiffre assez grand, un taux de prématurité très, très haut par rapport aux autres pays.
Disons qu'il est surtout, il est effectivement à Genève entre 7 et 8%. C'est-à-dire qu'il est plus élevé que dans les pays qui nous environnent, en particulier les pays scandinaves qui ont pu baisser leur taux de prématurité en dessous de 5% depuis déjà plusieurs années. Et c'est d'autant plus étonnant qu'à Genève, on dispose d'une structure médico-hospitalière qui est extrêmement importante. La densité de médecins, les possibilités de prise en charge sont extrêmement développées. D'autre part, le niveau socio-économique, on en reparlera tout à l'heure, est plutôt élevé par rapport à la moyenne d'autres pays. Et on se demande à quoi est dû cet excès de prématurité. Alors on verra qu'il y a qu'on peut parler des facteurs obstétricaux et qu'on peut médico-obstétricaux et qu'on peut aussi évoquer éventuellement le problème du travail. Alors les préoccupations de la prématurité, disons de la naissance précoce, d'abord la définition même de la prématurité a changé, c'est depuis au cours du siècle, puisqu'elle a d'abord été uniquement basée sur un poids de naissance inférieur à 2,5 kg. Et puis maintenant, plus tard, on a défini comme une naissance qui survient avant 37 semaines. Et puis, Pour la limite inférieure, on a d'abord parlé de 30 semaines, ensuite de 28 semaines. Puis au fur et à mesure que les progrès techniques avançaient et que les enfants étaient viables, la définition est devenue de plus en plus mince, si on peut dire, puisqu'on arrive maintenant à dire qu'un enfant est considéré comme viable à partir de 500 grammes. Je disais que la préoccupation de la prématurité et travail n'est pas nouvelle, puisqu'on voit qu'en 1895 déjà, un docteur Pinard, qui était accoucheur à Paris, constatait, il avait étudié une population de lingères, que le poids d'un enfant dont la mère s'était reposée 2 à 3 mois pendant la grossesse était d'au moins 300 grammes supérieur à celui des enfants dont la mère avait travaillé jusqu'au terme de sa grossesse. Dans les années 1930, il y a une enquête qui s'est faite à l'échelon européen, conduite sous les auspices de la Société des Nations, et qui avait montré que les mères des enfants prématurés étaient plus souvent soumises à un travail pénible. Donc déjà dans ces deux enquêtes, on retrouve la notion de travail, avant même tous les progrès et tout ce qu'on a pu découvrir sur les causes médico-obstétricales. Et cette enquête de la Société des Nations a permis d'entrer directement dans des objectifs concrets, puisqu'elle a conduit à l'introduction en 1935 déjà d'un congé prénatal légalisé dans les pays scandinaves. Ce congé prénatal a d'ailleurs été introduit progressivement dans tous les pays qui nous entourent, et le seul pays où il n'y a pas de congé prénatal, c'est la Suisse. Plus tard, dans les années 50, une autre étude avait montré qu'il y avait un excès de naissances prématurées chez les femmes qui travaillent et qui ont un salaire insuffisant. Et là, la définition se précise, puisqu'on voit qu'il y a la notion de travail, mais de pas n'importe quel travail, puisque c'est un travail avec un revenu bas. Et l'auteur trouvait aussi que c'était plus particulièrement chez celles qui travaillent debout. Donc un certain type de travail avec un revenu bas. Et puis par la suite, les études se sont multipliées et chaque fois on retrouve cette notion de fatigue maternelle à l'origine d'accouchements prématurés. Alors, qu'est-ce que ça représente, disons, en chiffres dans nos pays occidentaux? On estime actuellement que de 50 à 80% des femmes enceintes travaillent ou ont un travail salarié pendant toute ou une partie de leur grossesse. Il y a cependant une grande disparité, puisque je citerai très souvent des études françaises, puisque c'est le pays où on s'est le plus intéressé à la relation travail et prématurité. Mais il y a une dizaine d'années, on estimait que si 60% des Françaises enceintes travaillaient pendant leur grossesse, il n'y avait que la moitié des Européens, la moitié de cette taux, donc 30% des Européennes du Sud et seulement 4% des Nord-Africaines. On voit qu'il y a donc une grande disparité suivant l'origine. Les mères de famille travaillent également plus maintenant. Avant, il y avait seulement une très petite proportion des femmes qui travaillaient pendant leur deuxième grossesse. Maintenant, ça devient beaucoup plus la règle. Ce qui est clair, c'est que tout le monde est d'accord sur le fait que, comme on l'a vu pour l'avortement et les malformations, ce n'est pas le travail en lui-même qui est responsable d'un taux de prématurité élevé. Puisque tout ce qu'on sait de la prématurité, c'est qu'elle survient plus souvent, au contraire, chez les femmes qui restent au foyer que chez celles qui ont un travail salarié, toutes professions confondues, bien sûr. Et si on assiste à une baisse du taux de prématurité assez régulière, on a assisté dans les pays qui nous entourent ces dernières années, la différence reste sensible avec toujours un excès pour les femmes qui restent au foyer par rapport aux autres. Mais on n'a pas le droit de mettre dans deux paquets ces femmes qui travaillent et celles qui ne travaillent pas, puisqu'il y a de grandes disparités entre ces femmes. D'une part, on sait que les femmes qui travaillent, qui occupent un emploi salarié, sont par définition en meilleure santé que les autres, ça exclut toutes les femmes qui ont un handicap ou qui ont une maladie qui fait qu'elles ne peuvent pas se présenter sur le marché du travail. D'autre part, c'est les femmes qui travaillent pendant leur grossesse sont plus souvent âgées de 20 à 35 ans, 38 ans, et on sait que la grossesse est toujours plus facile dans ce groupe d'âge, qu'il y a plus de risques chez les femmes très jeunes et chez les femmes qui dépassent 38 à 40 ans. D'autre part, il n'y a pas non plus des femmes, toutes les femmes n'ont pas le même niveau socio-économique, puisqu'il y en a qui ont un niveau élevé, qui ont une formation poussée, qui ont des formations d'universitaires ou des formations techniques ou des grandes écoles, et que celles-ci occupent des postes à responsabilité et qu'elles choisissent de continuer à travailler quoi qu'il se passe, quelle que soit leur charge de famille, elles ont les possibilités de se faire aider. Et que d'autre part, on trouve des femmes qui ont au contraire un niveau socio-économique qui est bas, qui n'ont simplement pas le choix et qui doivent continuer à travailler sans autre alternative. Et puis, dans le groupe des femmes qui ne travaillent pas pendant leur grossesse, on retrouve ces femmes qui ne peuvent pas travailler pour des raisons de santé, soit antérieures à la grossesse, soit liées à la grossesse actuelle. Et puis, on trouve les femmes qui ont choisi de s'arrêter de travailler pour rester avec leurs enfants. Et puis, on a vu que des raisons culturelles peuvent assigner des femmes à leur foyer. On a vu que 4% des femmes nord-africaines travaillent quand elles sont en France. Et ce n'est pas forcément parce qu'elles ne veulent pas travailler. On ne peut pas négliger, bien sûr, les aspects de la charge de travail domestique. On en parlera une fois. Je ne veux pas insister là-dessus ce soir parce que ce serait tout un autre chapitre, si on veut. Mais pour reprendre l'exemple de ces femmes nord-africaines, on sait que la majorité des Maghrébins en France habitent dans des appartements où ils sont facilement 8, 10, 12. Et comme par hasard, ce sont ces femmes-là qui restent à la maison et qui ont toute la charge domestique. Enfin, dernier facteur, à mon avis, déterminant pour déterminant le fait de continuer de travailler ou pas pendant sa grossesse, c'est le type ou l'existence même d'une assurance sociale. Puisque en Suisse, par exemple, s'il n'y a pas de congé prénatal, la femme peut s'arrêter peut avoir un certificat d'arrêt de travail pour congé maladie et continuer à toucher son salaire pour ça, mais sinon elle va arrêter de toucher des indemnités, il n'y aura plus rien.
Mais peut-être pour expliquer aussi ces différences qui semblent frappantes entre le fait que, puisqu'on parle de travail et grossesse, et on voit que justement les femmes qui restent, qui n'ont pas un travail salarié ont un taux de prématurité plus haut. Bon, tu l'as expliqué, mais est-ce qu'on ne peut pas non plus penser que les femmes qui travaillent sont suivies, ont un suivi médical plus continu, elles font peut-être plus vite appel à un médecin pour suivre la grossesse, et donc il y a moins de risques pour ça?
Oui, alors tout à fait. Ça, c'est un facteur qui est extrêmement bien connu, c'est que c'est l'aspect de la socialisation du travail et du recours aux soins par là même. Et il y a plusieurs personnes ont étudié ce phénomène et on voit qu'effectivement le recours aux soins est plus rapide, plus fréquent pour les femmes qui travaillent que celles qui ne travaillent pas. Alors si on regarde tout le groupe de femmes qui ne travaillent pas et qu'on voit qu'il y a quand même, en tout cas pour la France, puisque c'est cet exemple qui a été étudié, beaucoup de femmes étrangères, on se rend compte qu'il y a vraiment un hiatus entre ces femmes qui probablement ou souvent ne parlent pas la langue, ne savent pas ou n'osent pas, ou il y a quelque chose qui fait qu'elles n'ont pas recours aux soins pour des facteurs qui resteront à étudier. Alors je sais qu'il y a dans certaines régions de France, on a fait des dispensaires spéciaux qui s'adressent en particulier aux étrangères, avec des personnes qui sont là, qui parlent les langues et qui essayent d'avoir une approche qui correspond plus à la culture de ces femmes.
Donc est-ce qu'on note plus de prématurité dans ces groupes de femmes à un niveau socio-culturel plus bas, qui reste à la maison?
Oui, c'est le groupe qui est le plus à risque pour la prématurité et aussi pour la mortinatalité, c'est-à-dire pour les morts-nés ou pour la mortalité pendant le premier mois de vie. Et ça, les taux sont nettement plus élevés, si ce n'est le double de celui qu'on trouve pour les femmes résidentes, enfin, originaires.
Radio Pleine Lune 93.8 MHz, ce soir nous discutons des effets du travail sur la grossesse, c'est un sujet brûlant puisque ce week-end on devra voter sur l'assurance maternité et qu'on voit justement l'importance d'une couverture sociale de la maternité pour protéger des incidents et d'accidents de la grossesse. Ce soir donc avec nous Elisabeth Cohn-Péréard qui nous parle de ce sujet. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, c'est le 50 40 51 41 023 depuis la Suisse. Vous êtes bien sûr bienvenue pour poser toutes vos questions. Alors nous avons vu donc les effets avant la conception, les effets pendant le tout début de la grossesse, les effets maintenant sur la prématurité avec cet événement assez spécial que les femmes qui ne travaillent pas en fait ont un taux de prématurité plus élevé. Mais le travail ne protège pas totalement de la prématurité puisqu'il y a quand même pas mal de facteurs de risque dans le milieu de travail qui peut affecter le bien fini d'une grossesse.
Oui. Alors effectivement, mis à part les effets toxiques dont on a déjà parlé au travail, il y a également d'autres facteurs qui sont directement liés au travail, à ce qui se passe sur le lieu de travail et qu'on appelle d'une façon générale les conditions de travail. Alors, différents types d'analyses du travail sont possibles. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a différents facteurs, ce qu'on appelle des indices généraux de ce qui se passe au travail et qui, si on les regarde l'un après l'autre, permettent de faire une évaluation de la fatigue de la femme au travail. Et ce sont en particulier les postures, savoir si la femme travaille debout ou assise, si elle est debout combien de temps, si elle a combien d'heures par jour, si elle a la possibilité de s'asseoir pour se reposer, si elle a surtout la possibilité de changer de position, si elle doit se mettre dans des positions dites acrobatiques, c'est-à-dire à genoux, à quatre pattes, monter sur un tabouret. Tout ça sont des facteurs qui s'additionnent au cours de la journée et qui peuvent avoir une influence sur le bon déroulement de la grossesse. On se demande également toujours si la femme travaille sur une machine. Une machine, ça peut être un écran, ça peut être une machine à écrire, ça peut être une machine industrielle. plus ou moins imposante, qui impose des vibrations, qui peut imposer des vibrations soit au bras, soit à l'ensemble du corps de la femme. Et on imagine facilement que de telles nuisances, en particulier les vibrations, ont une influence sur le fœtus et sur le placenta de l'enfant, enfin, ce qui nourrit donc l'enfant. On se demande aussi toujours si elle effectue elle doit faire une charge physique, si elle doit déplacer. Beaucoup de femmes sont chargées de porter des petits paquets. On laisse les gros paquets aux hommes en général. Mais un petit paquet, même de 2 ou 3 kilos,